Bon, on est de retour en ce spécial date limite des transactions et on va le rejoindre. Il est avec nous tous les vendredis, mais aujourd'hui, c'est une journée encore plus spéciale en raison de cette date limite. Arpin Basso est là. Arpin, comment ça va?
Arpin.
Oh les gars, je suis en train de vivre toute l'expérience Los Angeles, pogné dans le trafic depuis une demi-heure. Alors, living the dream ici, là.
Nice.
Oh man, non, c'est le fun, le trafic à Los Angeles.
Pour commencer, ouais. Arpin, pour commencer, parce qu'on a plein de stocks à faire avec toi, on va commencer avec les gardiens. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a des rumeurs qui disent que le Canadien serait dans des pourparlers pour un gardien de but?
Ben écoute, je pense que ça touche à plein de choses concernant le Canadien. Ils sont, dans une, ils sont rendus à une place. Comme check ce qu'Anaheim a fait hier soir. C'est comme ils ont dépensé un choix de première ronde, un autre choix de troisième tour. Ils sont allés chercher un John Carlson. C'est une équipe qui est dans une place quand même assez semblable aux Canadiens. Il y avait un besoin du côté droit de leur défensive. Ils sont allés dépenser pour le combler. Les Canadiens, écoute, je pense qu'ils ont une certaine confiance dans les deux gardiens, mais ils voient ce que tout le monde voit, c'est que la constance n'est pas au rendez-vous en termes de leur gardien, surtout Sam. Alors, ça ne me surprend pas qu'ils voient voir combien ça coûterait un gardien, une solution à court terme pour effectivement créer un pont jusqu'à temps que Jacob Fowler soit prêt. Ça ne me surprend pas du tout. Une chose qu'il faut savoir sur Jeff Gorton et Kent Hughes, et surtout Kent Hughes, c'est que ce gars-là, il est au téléphone tout le temps. Toute la saison, tout le temps, il est en train de parler avec tout le monde. Alors, c'est sûr que tu vas entendre des rumeurs que les Canadiens ont des pourparlers, entre guillemets. Mais c'est surtout, ils cherchent de l'information et je pense que ça s'applique dans le dossier des gardiens, mais ça s'applique dans plein d'autres dossiers aussi.
Ben, le dossier des gardiens, pour rester là, entre autres, il y a Kevin Weeks ce matin là, qui disait, tu sais, selon ses sources. En fait, je regarde la liste des gardiens de but là, qui sont nommés, là, que ce soit Bobrovsky, Bennington, Walstead, Connor Ingram, Stolarz, Wayne Skinner, puis là, on entend même le nom de Montembeau. Je me rappelle pas d'une date limite des transactions avec autant d'actions sur le côté des gardiens de but. Est-ce que je me trompe?
Non, tu te trompes pas, mais c'est aussi cette saison. J'ai rarement vu autant d'équipes avec un problème devant leur filet que cette saison.
Exact.
Et je regarde les Sénateurs d'Ottawa. Les Sénateurs d'Ottawa seraient confortablement dans une spot pour les séries en ce moment. Nul étant que leur gardien, la position du gardien de but a complètement défait tout le travail que Steve Staios a fait pendant la saison morte et l'équipe qui a bâti. Toutes les statistiques, à part le pourcentage d'arrêt pour le sénateur, sont très favorables. Alors, et c'est pas juste eux, évidemment. Il y en a d'autres, Montréal en étant un, où c'est facile de comprendre que si on avait un gardien, un meilleur gardien de but, on serait beaucoup mieux placé. Alors, ça me surprend pas beaucoup, c'est juste que tous les gardiens que tu viens de nommer, là, il y en a pas un qui a connu, à part Walstead, il y a pas un qui a connu une bonne saison.
Non.
Bobrovsky a été mauvais, Bennington a été mauvais. Puis l'affaire avec Bennington, je comprends les rumeurs et je comprends le Canadien, tu sais, vouloir savoir c'est quoi sa situation à Saint-Louis, mais la raison pour laquelle il connaît de la misère à Saint-Louis, mais est capable de jouer derrière l'équipe Canada, parce que si tu le mets derrière une défensive qui a de l'allure, il performe. Sauf que, je peux pas dire que le Canadien a une défensive qui va aider un gars comme Jordan Binnington à performer plus que la défensive à Saint-Louis. Parce qu'en ce moment, c'est fautif, puis je pense que le Canadien est en train de chercher des solutions sur la ligne B aussi.
Dans tout ce que tu entends, Arpin, c'est quoi les chances pour toi que le CH fasse l'acquisition d'un attaquant, que ce soit un centre ou un allié?
Je pense qu'ils sont assez bonnes. Leur problème, évidemment, c'est que il y en a déjà trop d'attaquants.
Ouais,
pas mal.
Je pense pas que ça leur dérange si quelqu'un comme Texier soit un extra. Évidemment, ça ne dérange pas que Véleno soit un extra. Mais là, si tu regardes l'alignement en ce moment, c'est qui sort pour insérer quelqu'un, mais c'est clair que le besoin chez le Canadien, en attaque comme en défense, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir quelqu'un qui est capable de jouer avec une certaine violence, avec une certaine robustesse, la physicalité, juste essayer de de brasser l'adversaire un peu, la façon que les Capitals ont brassé le Canadien le printemps passé. Alors, si ce joueur-là est disponible, je serais pas surpris que le Canadien aille le chercher, que ce soit à l'attaque ou en défense.
Ouais, on va surveiller. Tiens, restons chez les attaquants. Un nom que tu vois a été lié, bon, aux Canadiens, mais aux Sabres, à Utah, à Détroit, à bien de destinations, c'est Robert Thomas. Alors, on a vu quasiment tout le monde se retirer. Les demandes d'Armstrong sont astronomiques pour lui et bien d'autres joueurs. À ton avis, est-ce que Robert Thomas reste un Blues à 3 heures aujourd'hui?
Je pense que oui. Et je pense que ça serait la bonne chose à faire pour Doug Armstrong. Tu sais, écoute, si tu échanges un gars comme Robert Thomas et tu te limites aux équipes qui s'en vont en série, tu vas pas avoir le meilleur retour possible.
Exact.
Quand tu échanges un gars comme Robert Thomas, il faut ouvrir le marché à toutes les équipes de la Ligue nationale, incluant les équipes qui sont vendeurs en ce moment. Et ça n'aurait pas de sens qu'une équipe comme, mettons, les Blackhawks de Chicago, d'aller chercher Robert Thomas à la date limite des transactions, mais avant le repêchage, peut-être que ça tenterait aux Blackhawks de Chicago, et j'utilise ça juste comme un exemple, là, mais peut-être que ça tenterait une équipe comme les Blackhawks de Chicago d'aller ajouter ce gars-là à leur noyau. Mais en ce moment, à ce moment-ci de l'année, ça n'a pas de sens du tout. Alors, je pense que pour les Blues, la meilleure chose à faire, ce serait d'attendre la saison morte et voir c'est quelle autre équipe qui peut rentrer dans le portrait puis qui serait prêt à payer le prix que Doug Armstrong exige. L'autre dynamique-là, c'est que c'est la dernière année de Doug Armstrong, c'est Alex Steen qui prend charge dès la saison prochaine. Alors, c'est ça, on verra si ça aura un impact sur ce que les Blues font, mais moi, je serais quand même assez surpris si Robert Thomas bouge d'ici 3 ans.
Là, maintenant, on voit comment, à quel point les défenseurs droitiers à travers la Ligue nationale, c'est populaire. Est-ce que tu penses que le Canadien va réussir à aller chercher son défenseur pour jouer à droite?
Ça, c'est difficile à dire parce qu'il y en a, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont déjà partis. J'ai l'impression qu'il y avait de l'intérêt envers Connor Murphy avant qu'il soit échangé aux Oilers d'Edmonton. Est-ce que Rasmus Ristolainen, ça leur tente? Je pense que ça fait partie des discussions que les Canadiens sont en train d'avoir. Là. C'est est-ce que ça vaut la peine de payer le prix que Daniel Briard exige pour Ristolainen?
C'est surtout ça. Le prix, tu sais, je comprends que c'est un défenseur qui est très convoité puis qui a un profil intéressant pour le Canadien. C'est plus, est-ce que Kent Hughes et Jeff Gorton sont game d'aller payer ce prix-là, tu sais?
Ben, je pense que plus que le prix, est-ce que Jeff Gorton et Kent Hughes jugent que leur équipe est rendue à une place où ils peuvent faire quelque chose comme les Ducks viennent faire? Tu sais, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce que les autres équipes font? Puis les Sabres de Buffalo viennent dépenser pour aller chercher Logan Stanley et Luke Shen. Détroit est en train d'essayer de faire quelque chose, j'en suis certain. Boston est en train d'essayer de faire quelque chose, j'en suis certain. Alors, à un moment donné, je comprends que tu peux avoir un plan à long terme, puis c'est prudent et c'est même intelligent de rester avec ton plan, de pas... Mais des fois, il faut regarder la situation actuelle, réaliser que tu as investi beaucoup dans une saison, puis ça a du sens d'investir dans l'équipe actuelle pour que tes jeunes joueurs vivent quelque chose qu'ils n'ont pas vécu l'année passée. Avoir une série plus compétitive en première ronde, peut-être même gagner la première ronde, se rendre en deuxième ronde, voir c'est quoi cette expérience-là. Et on ne sait jamais, honnêtement, c'est comme avec la façon que l'Association de l'Est est cette saison, je pense que toutes les équipes voient ça comme une opportunité, particulièrement avec le fait que les Panthers ne seront pas là. Ça ouvre la voie à plein d'autres équipes de dire « OK, c'est notre shot parce que l'année prochaine, les Panthers seront probablement là encore. » Alors, je pense que tout ça, ça rentre dans le portrait ou dans le calcul pour le Canadien parce que c'est sûr que dans leur plan original, cette saison, c'était pas la saison où ils allaient acheter à la date limite. Mais des fois, il faut s'ajuster. Des fois, il faut regarder le portrait autour de toi et prendre une décision un peu plus difficile de dire « OK, ben il y a une opportunité devant nous. » On devrait le saisir, puis d'une autre façon, les Canadiens ont plein d'espoir. Ils ont déjà choisi plein de joueurs au repêchage. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un 25e choix au repêchage cette saison? Probablement pas. Alors, ça aussi, ça rentre en compte. C'est qu'est-ce que tu as comme organisation? c'est quoi la banque d'acquis que tu as accumulée au cours des 4 dernières années? Et est-ce que tu peux te permettre, comme ils ont fait avec Dobson, est-ce que tu peux te permettre d'acheter quelque chose qui va aider cette saison, qui pourrait aider la saison prochaine? Je pense que s'il y a un gars qui a des années qui restent sur leur contrat, je pense que les Canadiens va fortement considérer changer leur plan.
Ouais, on va voir en plus avec les Flyers qui ont acquis David Hrychek contre Bobby Brink. Ça leur donne un défenseur droitier. Ça ouvre la porte pour le départ d'Ariston Lehtonen. Mais ton collègue Pierre Lebrun vient de le dire dans les derniers instants également. Les Flyers, comme les Blues, se disent, ben, tu sais, on est correct avec le fait de le garder. Alors, on verra, lui, qui reste une autre année à 5.1. Alors, dossier à suivre pour...
Chaque équipe dit ça avant la date limite.
Ben oui, c'est sûr. C'est pour faire monter les prix.
Le Canadien l'a fait aussi, là. C'est normal.
C'est une pratique commune.
C'est pas un play pour les DG de la Ligue, là, ouais. Okay.
Toujours en conversation avec Harpon, qui est dans le trafic à LA, mais c'est pas grave, parce qu'il peut voir l'action qui se passe à travers son téléphone. Harpon, le plus gros dossier qu'on a tous hâte à Montréal, parce que moi puis Gonzo, on est convaincus qu'avant 3 heures, il va être parti.
Harpon, c'est la dernière fois qu'on en parle!
Est-ce que tu penses, Harpon, que d'ici 3 heures, pour toi, t'as une certitude que Laine sera plus là?
Ben, une certitude. Je pense pas que les Canadiens vont dépenser pour qu'il soit ailleurs qui ont besoin de le faire.
Exact.
Tu comprends mon point?
Oui, mais ils vont le faire.
Ouais, mais rendu à 2 heures, là, quand les équipes vont avoir un plan B, C, D. C'est ça.
Ben, je pense pas qu'ils vont le faire s'il n'y a pas un autre échange qui est jumelé à ça. T'sais, ils vont le faire seulement s'ils ont besoin de l'argent qui va être libéré avec un échange de Patrick Laine ou dans l'échange elle-même, ils peuvent peut-être transiger avec l'équipe avec lesquels ils parlent pour dire, OK, pour faire l'argent qui fonctionne, prends Laine. Mais ça, c'est préférable. C'est ça que le Canadien cherche depuis des semaines, là. Mais si jamais il faut qu'il dépense quelque chose pour libérer l'argent de Laine pour effectivement être capable de faire quelque chose d'autre, oui, il serait pas là. Mais si cet autre trade-là n'est pas dans le portrait, je pense pas qu'ils vont échanger Laine juste pour l'échanger. Il faut avoir un certain élément d'aide pour le Canadien. Puis s'ils l'ont pas, je suis pas convaincu qu'il va partir. Et ça serait plate pour lui parce que Laine, il faut qu'il joue, là. Il a besoin d'un autre contrat l'année prochaine. Mais c'est un peu ça la situation avec le Canadien. C'est que dépenser pour se départir de Laine, inutilement, ça leur intéresse plus ou moins pas.
Harpon, là-dessus, moi, je vais te dire que l'échanger pour l'échanger, c'est pas juste pour l'échanger. C'est parce que t'es obligé de le faire jouer si tu l'échanges pas. Puis moi, je te parie un chandail Harpon qu'avant 3 heures, il part.
Georges, combien de fois est-ce que je dois te dire que je parie plus de chandail avec toi? Là? C'est fini. Les paris pour les chandails avec toi, c'est terminé. Là.
Bien dit, Harpon.
C'est une mauvaise foi. Je te parie plus. Là. Mais je dirais que je pense que les Canadiens, si jamais ils sont pas capables d'échanger Laine, ils sont prêts à vivre avec le fait qu'ils soient à l'entourage de l'équipe qui jouera pas. C'est ça la réalité. Ça va être ça la réalité. Alors, on verra ce qui va arriver, mais selon tout le monde avec qui j'ai parlé, Patrick Laine, dans tout ce dossier-là, son attitude est excellente. Puis effectivement, le gars, il veut rester à Montréal. C'est pas comme s'il veut partir, là. Alors, c'est un dossier qui est un peu plus compliqué que juste de se départir de quelqu'un, mais je suis comme convaincu que le Canadien ne vont pas dépenser pour l'échanger sans qu'il y ait besoin de le faire.
OK. Passons à un autre dossier qui a retenu beaucoup d'attention dans la LNH et puis surtout hier avec son refus. Colton Parayko qui a refusé de lever sa clause en un échange pour aller à Buffalo. Qu'est-ce que tu penses de ce dossier? Et surtout, qui paraît mal dans ce dossier? Parce que, tu sais, on en a parlé hier, les détails sortent. Mertka joue avec le fils de Georges. C'est le fils de Georges qui l'a appris à Radim Mertka qui était échangé.
C'est vrai.
Tous les détails sortent et là, on attend. Puis là, il décide de pas lever sa clause. C'est assez comme maintenant, de toute façon, avec l'instantanéité aussi, puis le fait que ça fuit beaucoup, c'est pas évident à gérer ce type de transaction.
Ben, moi, je pense que la Ligue nationale, ou ils devraient mettre fin aux clauses de non-échange, ou ils devraient mettre à l'amende les équipes qui font de ces fuites-là. C'est l'un ou l'autre. C'est pas cool que Parayko, Mertka, tout le monde qui est impliqué dans cette transaction-là, ou cette transaction qui a finalement pas fini par se compléter, que ça soit sur la place publique, c'est pas une bonne façon de faire tes affaires. Alors, moi, je trouve que, éventuellement, il doit prendre une décision sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ces clauses de non-échange-là. Est-ce que, et si on les permet, il faut se dire que si un échange, s'il y a une fuite d'informations avant qu'un échange soit final et qu'il y a l'approbation du joueur, les deux équipes impliquées ont une amende. Et une amende quand même assez sérieuse pour, effectivement, faire en sorte que ces équipes-là gardent cette information privée autant que possible. Alors, j'en doute que ça arriverait, mais moi, dans tout ce dossier-là, c'est ça que je pensais, c'est que c'est les Blues et les Sabres qui devraient avoir une certaine responsabilité de garder ça secret, parce que c'est clair ce qui s'est passé ici. Là, ils voulaient mettre de la pression pour Perico pour qu'il lève son clause. Alors, en sortant la nouvelle, c'est ça que tu fais. Et ça, c'est pas cool, parce que la clause de non-échange, c'est quelque chose que tu négocies en bonne foi, c'est supposé être en bonne foi, mais ça arrive tout le temps qu'une équipe qui a un joueur avec une clause, à un moment donné, pendant ce contrat-là, va aller voir le joueur et dire « Est-ce que ça te tenterait de lever cette clause-là? » Puis je trouve que c'est de mauvaise foi. Un peu comme Georges qui demande de parier une chandelle encore. Là,
J'aurais dû dire qu'il te double à la place de parier une chandelle.
Ça, ça aurait été...
Hey, ben, Arfun, à quel point quand même les Sabres, bravo comment ils se sont virés de bord après le refus de Perico avec... pour vrai, là, avec Shen puis Stanley là,
Carrick,
à quel point ils sont une force cette année. Carrick aussi, qui est dur à jouer contre. À quel point tes voix sont une force dans l'Est cette année?
Ben écoute, c'est la meilleure équipe de la Ligue depuis que Kekalainen est là, pas mal. Là. Alors c'est sûr que une chose qui faisait défaut à cette équipe-là, en fait, c'est très semblable aux Canadiens, c'est que cette genre de joueur-là, et je suis sûr que c'est les genres de joueurs que les Canadiens sont à la recherche en ce moment, ça va leur aider beaucoup. Tu sais, c'est une jeune équipe, c'est la deuxième plus jeune équipe de la Ligue. Alors, c'est un peu ça que les Canadiens cherchent aussi, parce qu'ils sont jeunes, tu as besoin de ces gars-là qui sont durs à jouer contre, alors c'est un peu ça comme ça que je vois ça.
On a parlé des Sabres qui ont volé la vedette jusqu'à présent. Si on te pose la question, d'ici 15 heures, à ton avis, qui va voler la vedette?
Qui va voler la vedette? Moi, j'ai mes yeux sur Détroit.
Détroit, oui, qui vont réagir
au... Détroit, on sait qu'il était dans la course pour Quinn Hughes il y a une couple de mois. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur Steve Yzerman de s'assurer que cette équipe-là sera en série. L'année passée, il était dans une position semblable. Puis, dans le dernier droit, ils ont complètement laissé filer ça. Alors, il y a énormément de pression sur Steve Yzerman de rendre cette équipe-là en série. Une pression qui existe, honnêtement, qui n'existe pas à Montréal. Ça fait longtemps. À Détroit, ils ont une tradition de succès. Alors, moi, ça ne me surprendrait pas que Détroit sort quelque chose qu'on s'attend pas, puis qui s'améliore quand même d'une façon assez significative ici 3 heures.
Harpin, merci beaucoup pour cette belle conversation. On te souhaite une belle date limite des transactions en direct de la Californie, puis on se reparle la semaine prochaine.
Merci les gars, puis je suis rendu à l'Hôtel du Canadien.
Yes!
Félicitations à moi, j'ai traversé le trafic de Orange County, puis j'ai réussi à me rendre.
C'est fait! On a les droits, Harpin. Salut, Harpin.
Okay, salut, bonne journée, les gars.